France Culture.
Vous écoutez France Culture. Si ceux qui sont masqués savaient leur pouvoir, ils seraient les maîtres du monde. Mireille Havé. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre en piste et sous le regard des curieux ce soir à l'occasion de deux événements incontournables pour les amateurs de folie scénique. L'exposition En piste, visible au Mucem de Marseille jusqu'au 12 mai, est conçue par Macha Makeyev et Jean-Louis Giovannoni. Une sublime exaltation tant tragique que panique ou comique de l'art d'être en piste du clown à l'acrobate. Et le collectif sur les spectacles de curiosité dirigé par Philippe Bourdin et Cyril Triolaire, c'est une émission proposée par Céline Duchesnay. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Mauvais Genre, bienvenue sur la piste, nous allons passer une heure ensemble, je le répète, à la faveur de deux événements, un événement donc bibliographique, d'enquête érudite et historienne, et puis la visite guidée, et très bien guidée par ses commissaires, donc de cette exposition du Mucem. Je salue nos invités, bonsoir Philippe Bourdin.
Bonsoir.
Philippe Bourdin, vous êtes un des co-directeurs avec Cyril Triolaire, que je salue également, bonsoir.
Bonsoir.
Un collectif tout à fait passionnant qui est paru aux éditions donc les presses universitaires Blaise Pascal, donc les presses universitaires de Clermont-Ferrand, on est bien d'accord. Les spectacles de curiosité en Europe de la Révolution française à la fin du 19e siècle, donc un collectif d'abord très richement illustré et qui tente d'explorer par le menu, aussi bien sur le plan politique, social, socio-psychologique pourrait-on dire, la personnalité, les activités et surtout la manière dont ils étaient traités de tous ces gens qui faisait le spectacle de rue, le spectacle des campagnes, un spectacle errant, en tout cas un collectif donc, qui avait été détecté, on peut le dire, par Céline Duchesnay. Bonsoir.
Bonsoir François. Oui, parce que j'avais entendu parler que nos deux invités étaient de fameux lanceurs de couteaux aussi.
Et ah bon,
d'ailleurs, ils viennent de me le dire juste hors antenne.
Donc nous clôturons l'émission, bien évidemment,
qui
par
sait,
un numéro.
Qui sait, je me tiens prête, mais vous aussi, François.
Voilà, ça fait partie de votre activité universitaire.
On partage tout.
Il y a un séminaire lancé de couteaux.
Non, on les prend plutôt dans le dos, en général.
Ah oui. En tout cas, soyez les bienvenus. Alors, ce soir, ma chère Céline, nous allons d'abord faire un tour de piste à Marseille, l'exposition du Mucem. Quelques mots sur cette exposition.
Oh, je crois qu'il faut voir ça comme une grande déambulation rêveuse et poétique qui nous est offerte donc par Macha Makeyev et Vincent Giovannoni. Imaginez, par exemple, une grande installation avec une procession de costumes de clowns, tout un tas d'objets qui peuvent appartenir à Macha Makeyev, mais aussi des objets qui appartiennent au Mucem. Donc c'est l'art populaire qui est là, mais c'est aussi des tableaux magnifiques comme ce tableau des saltimbanques de Gustave Doré qui est cher à mon cœur et qui est d'ailleurs qui est représenté aussi sur la couverture du livre Les spectacles de curiosité de nos deux invités. Donc je crois que la boucle est bouclée.
Très bien, bien pour une vingtaine de minutes et avec une prise de son de Laurent Polleret, tous en piste. Nous sommes au cœur de l'exposition En piste, Clown, Pitre et Saltimbanque, exposition du Mucem présentée par Macha Makeyev et notamment devant ce qui peut être le plan général de l'exposition, une sorte de topographie. Macha Makeyev, ce qu'on observe, c'est que bon, il n'y a pas de date, il n'y a pas de période, il n'y a pas de nom de vedette du cirque ou de nom célèbre, légendaire. Il y a des mots-clés, cagibi, ménagerie, parade, cahute, ubu. Comment avez-vous pensé cette circulation ?
Oui, en fait, ça c'est la première esquisse. Je n'ai pas voulu mettre les choses plus élaborées. C'est vraiment le premier jet. C'est-à-dire que j'ai pensé à quelque chose comme un Tinguely ou un Malevitch, quelque chose. Je voulais vraiment que le public entre et que la déambulation se fasse dans une mécanique parce que c'est un spectacle immobile, donc il fallait trouver l'équivalent de la rythmique d'un spectacle. Et c'est par les couleurs, par la géométrie et par quelque chose de cinétique aussi. Voilà, donc avec deux lieux, c'est-à-dire le vestibule dans lequel on est et juste après la grande nef. Et voilà, il y a ce travail très, très à plat, comme ça, avec des couleurs qui sont restées d'ailleurs. Et j'ai voulu montrer le premier jet, parce qu'après l'élaboration, bien sûr, on fait une maquette, tout se devient très sophistiqué. Mais avant toute chose, c'est oui, une machine à rêver.
Vincent Giovannoni, comment vous avez-vous aussi participé à cette élaboration et quelle est votre vision de la circulation de l'exposition ?
Donc, je m'appelle Vincent Giovannoni, je suis conservateur ici au MUSEM, responsable des collections art du spectacle. Et on est habitué dans les musées à protéger les cendres de ce qui a été. L'ensemble étant souvent un peu figé, un peu mortuaire comme ambiance. Et pour réanimer l'ensemble de ces collections, nous avons souhaité accueillir et faire la plus large part, donner le plus de liberté possible à l'artiste Kemacha Makaïev. Réintégrer une âme dans ces pièces qui ont vécu, qui ont joué, qui ont travaillé, toutes.
Alors là, nous sommes dans une sorte de préambule, on pourrait dire les choses comme ça, avant d'entrer dans un grand espace immense, justement, avec plusieurs pistes, avec des couleurs dans tous les sens, avec des objets qui sont au-dessus de nos têtes, à côté, où on a l'impression que c'est donc une forme d'immersion que vous allez nous proposer. Et je vous propose justement de quitter ce préambule pour rentrer dans le grand espace et dans cette suite de pistes.
On a quitté le vestibule où d'entrée on a deux œuvres de Valinci, des accessoires de théâtre qui sont de grands vases tirés d'Ali Baba, puisque nous appelons nous les ready-made, c'est-à-dire pris dans les collections, à la fois mon stock aussi de théâtre, mais aussi dans les collections magnifiques du MUSEM, des objets étonnants, qui sont beaux comme des Jackson Pollock, mais ce sont des objets très, très ordinaires, tirés des morceaux de manège. Et c'est vraiment dans ce vestibule, on a voulu vraiment qu'il y ait l'estrade du bonimenteur, c'est ça que j'ai dessiné. Et avec deux tableaux qui prennent la parole, c'est-à-dire ce sont les images qui prennent la parole. Il n'y a pas de grand discours dans le vestibule. Dans les deux tableaux de Quimper, tout est dit. Tout est dit, le bonimenteur, le théâtre italien, la mécanique, les roulottes, tout est dit, tout le mouvement, la place publique et les objets aussi. Et pour peu qu'on soit un peu contemplatif, si on regarde ces deux tableaux, on va pouvoir trouver plein d'indices parce que dans la grande nef dans laquelle on est entré, c'est vraiment qu'un jeu de correspondance.
Les objets les plus humbles, les pauvres objets, comme aime à le dire Macha, ont leur place ici. Une des particularités du MUSEM, comparativement au musée de Beaux-Arts, c'est qu'il nous revient de collecter les objets les plus modestes, les objets qui ont été délaissés par la société en général et qui peuvent être quelquefois sembler être abîmés, très usés. Et nous les gardons dans cet état-là. Ce que nous appelons les ready-made que nous avons présentés à l'entrée de l'exposition sont des objets qu'on a à peine dépoussiérés, qui sont dans l'état dans lequel on les voit dans les réserves, mais qui ont ce charme des vieilles pièces qu'on trouve quand on ouvre une armoire.
Oui, ce sont des objets qui sont extrêmement différents. Alors là, je vois devant moi deux toiles de Fernand Léger, deux autruches empaillées, des agrès auxquels ont dû se suspendre des générations de gens du cirque, une nana, la tête en bas de Niki de Saint-Phalle, un tigre un peu plus loin. Il y a une ouverture permanente, ce qui fait qu'on est un peu sur un mode d'association libre, un peu de type surréaliste, où libre aux visiteurs de fusionner, de faire résonner, Fernand Léger assis sur une autruche, un agrès à côté d'une nana, tout est ouvert, tout est possible, Macha Makaïev.
Oui, en fait, il y a trois pistes principales. Alors, il y a la piste de Ciel et Vertige, avec évidemment Wim Wenders et Les Ailes du Désir, ça, bien sûr, un filet de Valinci, et puis effectivement, la nana noire que nous, on a vécu comme une acrobate, la tête en l'air. Et un objet aussi que j'aime particulièrement, qui vient de Montfavet, qui est un objet d'art brut. Montfavet étant une institution psychiatrique. Il y a une mécanique, alors je vous dis, il y a trois cercles comme ça, on a l'impression de tourner, qui nous font tourner, un grand podium avec un défilé des clowns, un défilé de costumes de clowns qui est vraiment comme un défilé de haute couture aussi. Et c'est posé sur des personnages, sur des mannequins féminins, et elle touche à peine le sol, et il y a quelque chose du mouvement là encore. Après, on voit ici ou là la lumière de Jean Bellorini avec les trois cerfs aussi, qu'on garde cette idée du mouvement. C'est-à-dire que pour peu que vous fassiez un pas de côté, tout bouge. Ce qui m'intéressait, c'est de dire que ce qui a priori est immobile dans un musée se met à bouger pour peu qu'on en fasse quelque chose de spectaculaire. Et donc dans la Grand Nef, où on est à 360 degrés, on a cette vision. Le regard n'est jamais arrêté et on voit les promesses là-bas, ici et là. Et alors il y a les trois pistes, il y a le podium, il y a aussi des surprises avec les ballets russes au milieu. Et puis il y a trois lieux dans lesquels on peut entrer. Alors il y a au fond le Nickelodeon, à la fois musical et premier cinéma. Il y a la loge des comédiens, bien sûr, avec Mireille Havé et Claude Cahun et Colette qui nous accueillent. Et puis il y a les KGB, les trois KGB de Rêve Fou, avec des illusionnistes et avec le grand Yanko, qui était un personnage tout à fait magnifique, qui a traversé la vie comme un roi hindou, un prince indien, toute sa vie.
Je me demandais comment est-ce que vous avez fonctionné tous les deux. Je vous imaginais dans les réserves, Macha, aux côtés de Vincent Giovannoni. Est-ce que vous avez pointé du doigt des objets? Vous avez discuté tous les deux? Comment s'est élaboré justement le choix de ces objets? Puisqu'il y en a quand même un certain nombre qui viennent directement des collections du MUCEM.
La priorité a été d'offrir la plus grande liberté possible à Macha. Nous sommes allés nous promener dans les réserves immenses, 10 000 mètres carrés où sont stockées nos collections, avec Macha, pour qu'elle puisse laisser flotter son regard. On a pris beaucoup de temps. Vous voyez, tout d'ailleurs, je vous ai parlé des ready-made, ces pièces qu'on a présentées telles qu'elles sont simplement disposées sur nos étagères. Macha a fait le choix de les présenter réouvertes, comme ces agrès devant lesquels nous sommes. D'autres sont toujours empilés, tels les planchers de manège. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, absolument tout est possible. Il fallait que tout soit possible, et pour que tout soit possible, il fallait faire la plus large place possible à la liberté de l'artiste.
Oui, le titre de l'exposition, c'est « En piste », c'est pas « Au cirque ». Et donc, on est dans quelque chose qui est en permanence évolutif, dans le mouvement, dans l'espace. Et là, je vois un grand praticable avec des costumes. On a l'impression d'un défilé de mode, une espèce d'étrange parade. Ça montre bien qu'on est dans une sorte d'univers qui est un univers mobile et qui est un univers dont on ne sait pas très bien ce qui va se produire. Puisque même s'il est au cirque, on n'a pas de programme, les choses arrivent comme ça, et là, un peu, on a un peu cette impression.
Oui, c'est-à-dire qu'à chaque séquence, un poète prend la parole. Ici, c'était Ingeborg Bachmann, évidemment, qui dit « Tout homme qui tombe a des ailes », ça c'était pour les ciels du vertige. De la même façon pour les clowns, de la même façon pour la ménagerie, ces artistes oubliés qui ont été les animaux, qui ont été de grands artistes de la piste, de la scène, etc., et qui aujourd'hui ne sont plus que de fantomatiques. Et donc c'est une célébration de ces choses-là. Alors le podium auquel vous faites allusion, c'est vraiment, oui, quelque chose de l'ordre du défilé. C'est une parade. Et évidemment, il y a l'écho avec les rouleaux qui sont ici et là. Parce que vous allez voir, on a les parades des clowns et le clown blessé. On a des chefs-d'œuvre de rouleaux. C'est ce dialogue entre ce qui a été le destin de chaque clown qui est là. Parce que ce sont vraiment, à chaque fois, c'est un destin qui est posé comme ça sur les épaules grêles de ces fragiles mannequins. Et à chaque fois, c'est comme des petites mains qui les ont fabriquées. Et c'était d'une finesse. Et entrer en scène avec ça, il faut imaginer ce que ça pouvait être toute une vie, jusqu'à l'usure. Quelquefois, on voit que le tissu est cassé, brisé. Moi, il n'y a rien qui me bouleverse comme ça. Et c'est ces trésors-là de choses, évidemment, qui ont été absolument brillantes, célébrées, qui sont là maintenant, aujourd'hui, et on en fait le tour et on se les approprie. L'idée, c'était pour moi de recréer un mouvement avec la géométrie, c'était de recréer le mouvement. Mais effectivement, c'est un parcours. Vincent parlait beaucoup de liberté de l'artiste, mais c'est aussi la liberté du public. C'est-à-dire que le visiteur, la visiteuse se promène et c'est son regard, c'est sa part d'imaginaire qui va achever le spectacle. C'est ça qui m'importe.
C'est vrai qu'à la vue de ces costumes, moi, ce qui me m'étreint toujours un peu, c'est d'imaginer les corps qui ont porté ces costumes. On voit les traces d'usure, vous l'avez dit, les traces de transpiration aussi. Et je me dis que cette exposition, qui s'appelle certes En piste, mais qui s'appelle aussi Clown, Pitre et Saltimbanque, est aussi consacrée avant tout à des êtres humains, pas uniquement un lieu. Est-ce que vous avez cette dimension de ces corps disparus qui est présent dans votre esprit quand vous êtes dans cette exposition?
Absolument, un costume de scène doit être pensé comme un vêtement de travail. Ça l'est dans la réalité des choses. on ne le perçoit réellement le plus souvent pas de cette manière-là. Mais c'est un vêtement dans lequel on va effectivement devoir suer, on va devoir bien sûr être en habit de lumière, mais on peut aussi pouvoir se rouler par terre pour faire une cascade, un numéro de cirque, se relever et être toujours brillant. Les costumes que vous voyez là sont des costumes qui valaient une fortune, le prix d'une voiture pour les plus grands d'entre eux. Donc il fallait qu'ils durent. On est à une époque où on est sur du simple coton, l'ensemble est entièrement brodé, on n'a pas de tissu élastique. Oui, ce sont des costumes dessinés, construits, réalisés par de très grands professionnels. Il y a aussi un élément frappant dans l'histoire des clowns, c'est que dans la plupart des cas, les artistes ont commencé leur carrière en étant acrobates. Puis un jour, il y a eu une première chute, puis une chute qui finalement leur a été fatale. Ils ont développé une musculature, une ossature qui leur permettait de voler dans les airs, comme les anges au cirque. Puis un jour, il y a eu cette chute définitive. Pour continuer à vivre, la seule possibilité qui leur restait, c'était d'être clown, de faire rire devant eux-mêmes, renoncer à tout ce qui avait été le projet de leur vie. Et on le voit dans ces costumes, souvent les visiteurs nous interrogent sur la largeur des épaules. Pourquoi est-ce que les clowns ont des épaules aussi larges ? Ils ont des épaules aussi larges parce qu'originellement, ce sont des athlètes déchus, des anges tombés du ciel.
On se dirige vers les clowns, on longe la parade des costumes de scène. Il y a un chien avec une fraise et on tombe devant un grotesque de Georges Rouault, Vacha Makaïev. Là, Rouault est un de ceux, il a peint dans sa vie deux choses, les Christ et des clowns et des prostituées, ce qui est une assez bonne définition des choses. Mais là, vous avez dû être confronté à une iconographie absolument phénoménale en matière de clowns, puisqu'il y a à la fois les photos de scène, il y a les affiches, il y a les représentations picturales, il y a l'illustration populaire. Là, il y a, à chaque fois, tout varie et on sent que c'est pas le même clown.
Oui, c'est-à-dire que c'est au-delà du clown, c'est-à-dire c'est le destin du saltimbanque. Oui, moi, je suis évidemment une adepte de Starobinsky, donc ces figures de l'artiste en clown. Ça, c'est vraiment et en saltimbanque. Et là, bien sûr, qu'est-ce que c'est que ce travestissement ? Qu'est-ce que c'est que ce déplacement ? Mais après tout, ça parle de la fragilité de l'humain. Et c'est pour ça que il y a de grandes œuvres. Là, vous voyez un Garouste magnifique. Voilà. Et ça dialogue avec des objets les plus déclassés, les plus usés, les plus prosaïques. Et c'est ce dialogue-là qui m'intéressait de travailler sur ces correspondances-là. Que ce soit le grand Gustave Doré derrière, que ce soit le Garouste, que ce soit là, sur ces murs. Alors, sur ces trois murs-là, c'est vraiment le mur des femmes. C'est-à-dire trois grandes tireuses qui sont Niki de Saint-Phalle, bien sûr, qui tire, mais aussi Annie Oakley, qui était la plus grande artiste pour tirer du temps de Barnum et de Buffalo Bill. Et puis Mae West, qui est pour moi l'absolue comédienne, actrice de Hollywood et qui était aussi une femme de musical, très souvent en duo avec W.C. Fields aussi. Là aussi, de sortes de clowns dans le sens. Et en même temps, c'est d'une puissance et d'une rareté. Ils ont un sens de la nuance, de la période. Tout ça a été cueilli au Music Hall. Et donc voilà, il y a ces trois femmes-là qui sont pour moi des grandes figures. Évidemment aussi, je convoque des fantômes, les miens. C'est-à-dire que là, il y a Bobby qui ressemblait beaucoup à W.C. Fields, un de mes comédiens qui a traversé plusieurs de mes spectacles. Et là, j'ai laissé évidemment ses hardes, c'est-à-dire un costume que j'avais fait pour lui, puisqu'il interprétait dans les Apaches Mae West, voilà, avec une contrebasse. Et là, à la suite, il y a Agnès Varda, avec des inédits de Varda. Vraiment, c'est des choses, une installation qui est le cirque phocéen. Le sous-titre de l'exposition, c'est comme par hasard. Et quand j'ai fouillé rue Daguerre, comme par hasard, je suis tombée sur une installation qu'on n'avait jamais vue d'Agnès Varda. Et c'est le cirque phocéen. Marseille est présente. Ici et là, il suffit d'être un peu attentif. Puis des images, elle a photographié Calder avec son cirque, elle a photographié des saltimbanques de chinois, et puis aussi Jean Villard sous le chapiteau, c'est-à-dire le TNP sous le chapiteau. Je voulais vraiment réunir, c'est-à-dire on va quitter l'idée de la piste, c'est bien plus élargi que ça. C'est toutes les formes de la scène, toutes les formes du spectacle à cet endroit.
Je voulais savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi les termes de pitre, clown et saltimbanque ? Parce que ça aurait pu être les acrobates, il y a d'autres représentations d'artistes de cirque et de rue ici.
Oui, j'ai essayé vraiment, pour moi c'est vraiment c'est ce que ça renferme de poétique et de fort et de destin de l'artiste en général. Et il y a toujours un moment où on est de beaux idiots quand on commence un spectacle. Dans la salle de répétition, c'est la nef des fous. Et si on ne revient pas à cette innocence du pitre, si on n'en revient pas à ces outils-là aussi, à cet état-là d'entrer en scène comme on se serait trompé de porte, c'est ça qui se joue. Voilà, c'est ce que je voulais. Le croisement du pitre, du clown et du saltimbanque, il me semble que c'est là que se jouent nos vies, nos destins d'artistes.
Avec cette idée que ce sont des mots qui ont pu être dépréciés aussi, dont on a pu se moquer.
Ça, c'est évidemment à cet endroit-là, et dans l'exposition, on peut le retrouver, que ce soit l'arrêté de police dès l'entrée dans le vestibule. Évidemment, à cet endroit-là, les artistes que nous sommes, les saltimbanques, nous avons été le long de la vie assez mal notés d'un point de vue social. Oui. Et surtout les comédiennes. Moi, j'insisterai beaucoup sur la femme artiste et sur la femme comédienne qui, déjà au XVIIe siècle, était, pour être comédienne, il fallait être extrêmement talentueuse, cultivée. C'était généralement des poétesses, des femmes qui savaient lire, écrire, qui écrivaient. Et c'est des femmes libres. Mais à quel prix ? Donc il fallait une force de caractère et une rêverie sur son destin incroyable. Incroyable. Mais jusqu'à Claude Carin, jusqu'à toutes ces femmes-là. Voilà, donc c'est vrai qu'elles sont très présentes dans l'exposition.
Chamakhiev, on observe que depuis quand même 15-20 ans, le clown devient méchant. Comment vous lisez, vous, cette espèce d'évolution, de mutation du clown, qui n'est plus le clown mélancolique, qui n'est plus le clown qui fait s'esclaffer les grands et les petits, mais qui est un clown pervers, qui est un clown sardonique, mais qui n'a pas changé d'apparence?
Oui, on verra Jonathan Phoenix pas loin d'ici, hein, en face de Ubu en plus, et dans Joker, bien sûr. Oui, je pense que s'il est devenu sardonique, il est devenu une figure maléfique, c'est parce qu'il n'a plus sa place. Vous savez, les petits, ces gens-là ont été chassés des musicals, le musical n'existe plus. Ces scènes où ils étaient vraiment des grandes... Ils avaient vraiment un intérêt énorme, enfin, dans le mouvement de la société, dans ce qu'ils racontaient, ils rapportaient en phénomène de miroir sur ce qui grinçait dans la société. Aujourd'hui, vous les mettez dehors, vous leur dites c'est fini, tu poses tes oripeaux et puis il n'y a plus de place pour toi. Mmh. Eh bien, voilà, ils passent dans une autre catégorie qui est... Oui, ils vampirisent. Là, on passe devant le Nickelodeon, qui est quand même, pour moi, un des moments les plus importants où on va pouvoir voir évidemment Tati Keaton, Harold Lloyd, mais aussi du théâtre. Et c'est l'éloge du musical et c'est l'éloge du premier cinéma et de ces artistes qui, depuis le musical, ont inventé le cinéma. On passe devant Ubu, on passe devant les chaussures des clowns, oui. Ça, c'est très important aussi. La difformité de ces personnages sur scène. Il y a les chaussures de Little Teach, c'est un petit bonhomme d'1m50 qui, une fois sur ses pointes de chaussures, faisait une taille absolument formidable. Donc il y a aussi cet abandon des choses dans la loge. Moi, je suis toujours très touchée par la force poétique de la loge, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, on abandonne, on jette par terre et c'est encore chaud du corps de l'acteur et ça m'importe. Voilà, je voulais vraiment montrer ça aussi. Ce côté à la fois sublime et prosaïque de la scène, de l'après-scène, de l'avant-scène, oui. Voilà, donc en face du but, ben on a les frics, ben évidemment que Todd Browning et ne pouvait pas ne pas être présent, c'est vraiment une obsession avec vraiment des extraits du film et puis aussi toutes ces photographies que nous avons choisies qui sont vraiment les troupes de Lilliputiens qui... C'était pas seulement la foire des monstres, c'était aussi des troupes constituées qui faisaient quelquefois du théâtre de recherche, qui faisaient de la comédie musicale, etc., et qui étaient reçues parmi les plus grands, enfin, qui faisaient le tour de l'Europe, et on en trouve partout dans le monde. Et évidemment, Todd Browning, c'est le grand poète des freaks sublimes. Moi, j'aurais pas pu faire cette exposition sans honorer un tel cinéaste. Et juste à côté, les icônes, bien sûr. Vous savez, évidemment, ce qu'on nomme et ce qu'on aime, Toto, Claude Cahun, voilà, des comédiens que j'aime. Et puis, bien sûr, Bowie, parce que Bowie en Keaton, c'est quand même, voilà, le prolongement et la grande tradition, le souffle aussi. Ça va au-delà du clown. Keaton était-il un clown? C'était un être extrêmement poétique. Il a inventé le cinéma, une façon d'être au cinéma, et un immense artiste comme Bowie s'en empare. Il se voit en jeu de miroir. passe devant Tracandic. Dans cette exposition, il y a des œuvres qui ont été prêtées évidemment par des grandes institutions, tout ça. Mais il y a aussi des artistes qui ont fait des œuvres pour l'exposition. Et ça, Gérard Tracandic nous a fait des aquarelles absolument sublimes. Magnifique. Regardez le mouvement qu'il y a là-dedans. C'est des gestes très, très, très rares, très, très beaux, très posés comme ça. Il faut être un immense artiste pour faire ça. Et si vous saviez la reconnaissance que j'ai pour ce qu'il a fait.
D'autant que c'est un véritable cadeau que nous a fait Gérard Tracandic. Nous l'avons contacté, Macha et moi. Et pour cette exposition, il a créé cette série d'aquarelles. C'est un des plus grands artistes vivants, français. Et il nous a fait ce cadeau d'une générosité absolue.
Et alors justement, devant nous, nous avons une roulotte, nous avons deux roulottes. Oui. Est-ce que vous pourriez nous les décrire et nous dire d'où elles viennent ?
Alors là, il y en a une, c'est une roulotte tzigane que je suis allée chercher moi-même dans la campagne. Et puis l'autre, c'est une roulotte que j'ai dessinée pour un décor. Quand j'ai monté la fuite de Bulgakov, c'est l'exil des Russes blancs. Et quand ils arrivent à Constantinople, ils n'ont plus de chevaux, donc ils font une course des cafards. Et puis ils n'ont plus de fête foraine, donc ils organisent une fête foraine et ils se font une roulotte. Voilà, donc ils étaient là-dedans. Mais cette roulotte, on a accueilli dedans Bartabas, qui est quand même le grand itinérant dans cette histoire. Et ses premiers costumes de scène, avec les oies aussi, bien sûr, le troupeau d'oies. Alors celles-là sont montées sur la roulotte. Mais c'est important aussi que Bartabas soit là. Bien sûr, c'est l'immense artiste. Mais surtout, c'est quelqu'un qui dit l'animal est un artiste à part entière en face de moi. Et dans son dialogue avec le cheval, évidemment, il n'y a pas un dresseur et un cheval comme dans un tableau de Picasso devant lequel on est passé tout à l'heure. Il y a d'abord le cheval et ensuite l'autre artiste, et c'est un dialogue entre deux artistes. Ça m'importait. Alors dans la roulotte tzigane, j'ai posé Bergman, le septième saut, avec évidemment la scène où le chevalier joue aux échecs avec la mort et attrape l'attention de la mort pour qu'elle ne se retourne pas et ne jette pas la peste sur les saltimbanques. Et donc ce couple de saltimbanques avec ce petit enfant dans sa roulotte va s'éloigner, ils seront épargnés par la peste. Et je voulais vraiment qu'on finisse l'exposition sur quelque chose de la pérennité. Il y aura toujours des saltimbanques. Ils échappent à tout, en fait.
Les saltimbanques échappent à tout, espérons-le, aussi parce que nous, personnes, disparaîtront un jour, les personnages vivront dans l'éternité. Arlequin sera toujours présent.
Alors on va terminer avec un classique du mauvais genre que j'attendais de voir depuis bien longtemps, L'homme à la poupée de Jean Weber. On attend d'ailleurs une grande exposition, Jean Weber. Alors Vincent Giovannoni, décrivez-nous et dites-nous, parce que là le tableau est emblématique de tout un monde à la fois vénéneux, fantasmatique, érotique, inquiétant.
Bon, votre émission s'appelle Mauvais genre et nous ne pouvions pas passer à côté de Jean Weber, qui est effectivement un artiste extrêmement qui a toujours été controversé de son vivant et dont l'exposition aujourd'hui en 2025 évidemment n'est pas sans poser de réels problèmes. On y voit une femme allongée, entièrement nue, et un homme totalement absorbé dans une réflexion face à une marionnette qu'il tient entre ses mains. Il y a d'autres marionnettes, une Sainte Vierge à ses pieds, des marionnettes désarticulées qui sont sur le côté. Un regard de dément dans cet homme-là, cette femme dont on ne sait pas si elle est morte, si elle est endormie, si elle est en rêverie, si elle est réelle ou si elle existe vraiment à côté de cet homme. Cette toile, qui est évidemment excessivement puissante, a pour intérêt de poser des questions large, profonde, sur qui nous sommes, nous, humains, et certainement pas d'apporter des réponses.
Oui, et puis comme on n'avait pas de James Ensor, voilà, j'ai demandé aussi à Jean Bellorini d'éclairer vraiment ce qu'il a fait avec tellement de subtilité, toutes ces marionnettes, et la folie de ce marionnettiste, comme ça, qui a entre les mains une marionnette peut-être vivante, peut-être... voilà, donc c'est beau comme un James Ensor, en fait. C'est ça qui importait, et en fait, c'est le premier tableau que j'ai obtenu pour l'exposition. Voilà. Il a vraiment, c'est le premier à avoir été sur la liste, n'est-ce pas, Vincent? Voilà. Et il fait écho, bien sûr, à une collection de têtes de marionnettes absolument extraordinaires du Mucem qui m'ont fascinée et qu'on a pu mettre comme ça, comme une ronde folle et infernale à côté des marionnettes de Weber.
Cette œuvre, effectivement, était la première à être sur la liste du fait de la volonté de Macha. nous ne connaissions quasiment pas à l'époque. Quand j'ai vu arriver ce tableau, parmi ces grandes priorités, j'ai compris que j'avais affaire vraiment à quelqu'un d'extrêmement puissant et d'extrêmement courageux. Chose dont on a tous besoin dans notre environnement proche, mais dont notre monde a besoin. Par ce courage, par cette manière d'aller un tout petit peu trop loin, Macha, en tant qu'artiste, est capable de réintroduire cette vie, ce déséquilibre dont on a besoin quand on va au musée. Les musées où on vient voir quelques œuvres gentiment accrochées sur un mur, ont fait leur temps. On a besoin aujourd'hui d'être un petit peu bousculé, un peu inquiété dans cette période de sur-certitude qui est celle de ce premier quart du XXe siècle, 21e.
Bien, ben, Macha Makayev, Vincent Giovannoni, pour l'homme à la poupée, pour cette bousculade lyrique, merci.
Merci à vous, merci infiniment. Et on finit avec un Gustave Doré aussi, qui raconte tout, c'est-à-dire le couple de funambules et le petit enfant est tombé. Et on s'interroge sur l'empathie du petit chien costumé, sur le mystère aussi de cette fin. L'artiste qui tombe, depuis Jean Genet, on le sait, le funambule qui tombe. Qu'est-ce qu'il se produit alors? Si on peut être allé, Vincent et moi, à cet endroit-là de réflexion sur l'après-spectacle, sur qu'est-ce qui se passe après nos gestes de fou, d'élévation, de saltimbanque, d'essayer de sauter un peu plus haut vers le ciel, et la façon dont on retombe, on est retombé, on retombera toujours, avec évidemment se cassant quelque chose.
Au revoir et merci beaucoup à vous.
Voilà, c'était notre visite guidée et de quelle manière par Macha Makayev, et Vincent Giovannoni, donc l'exposition En Piste qui est visible au MUCEM de Marseille jusqu'au 12 mai. François Angelier remercie Céline Duchesnet.
Et Céline Duchesnet remercie François Angelier.
C'est merveilleux d'avoir suscité cet événement. Et puis Mauvais Jean remercie Muriel Filleul et Hugo Deslandes pour la part qu'ils ont prise à l'organisation de tout cela En Piste MUCEM jusqu'au 12 mai. On y va.
Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Voilà, la visite de l'exposition En Piste se terminait par l'évocation de ce sublime tableau de Gustave Doré qui nous montre une famille de gens de cirque avec un enfant blessé. Et bien, c'est ce même tableau, Céline Duchesnet, qui est en couverture, je le répète, du formidable livre publié par les presses universitaires Blaise Pascal, j'y arrive, et donc dirigé par Philippe Bourdin et Cyril Triolaire, les spectacles de curiosité en Europe de la Révolution française à la fin du 19e siècle.
Eh bien, je pense que la première question qu'on pourrait vous poser, c'est qu'est-ce qu'un spectacle de curiosité? Alors, je ne sais pas s'il peut y avoir une définition simple ou alors si c'est quelque chose avec des contours un petit peu mouvants. Mais si on décide d'aller à un spectacle de curiosité, que peut-on voir? Ou que pouvait-on voir, plutôt?
On pouvait voir des danseurs sur cordes, des équilibristes, des ventriloques, des petits spectacles de physique et de magie, des panoramas, des dioramas, des lanternes magiques, des tirs, des feux d'artifice, des montreurs d'humains, nains, géants, femmes à barbe, etc. Des montreurs d'animaux, des exercices équestres. Donc il y a une très très grande variété de spectacles de curiosité et c'est ce que retient aussi l'administration l'administration à partir du Premier Empire, hein, qui classe ces spectacles de curiosité hors champ des spectacles dignes que sont ceux du théâtre.
Mais Cyril Triolaire, le concept de curiosité n'est pas un concept nouveau, puisque dès l'époque baroque, à Prague, l'empereur Rodolphe II avait plusieurs extraordinaires cabinets de curiosité qui étaient des lieux intimes, privés, qui faisaient visiter à quelques élus. Ça s'est transmis pendant les Lumières avec les célèbres cabinets des merveilles de nature. Mais le scandale peut-être des spectacles de curiosité, c'est que ce qui était avant caché, un peu singulier, bizarre et monstrueux, sort dans la rue et devient populaire. C'est peut-être là le scandale.
Alors en tout cas, ils sont visibles très largement dans la rue, mais dans les espaces clos des théâtres, sur les scènes desquels ils sont régulièrement invités parce qu'ils font concurrence aux artistes traditionnels, aux comédiens, aux comédiennes. Ces spectacles de curiosité, à partir du début du 19e siècle, ils sont désignés comme tels, mais en réalité, ils existent déjà aussi sous d'autres noms dans l'espace public avant. Ce sont les spectacles forains qui existent tout au long du 18e siècle et qui prospèrent, qui sont visibles dans les grandes foires, la foire Saint-Germain, la foire Saint-Laurent à Paris, mais dans les grandes foires de province et du reste de l'Europe. Donc, en réalité, les curiosités sortent un peu du cabinet, mais elles en sont déjà sorties un petit peu plus tôt, puisque ces forains, en réalité, occupent déjà l'espace public depuis le début, depuis la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle.
Philippe Bourdin, la curiosité est un vilain défaut, dit-on. C'est peut-être l'attribution de ce mot, la curiosité, c'est peut-être une espèce de mélange de voyeurisme morbide. Ça trahit quand même, quand on va voir les phénomènes auxquels vous faisiez allusion, ça traduit quand même quelque chose de peu noble, d'un petit peu sauvage. C'est un peu la part obscure de l'individu qui se révèle quand il va voir, je ne sais pas, des combats de nains, des femmes géantes, des sirènes, des spectacles curieux.
Je pense qu'il y a quelque chose de commun avec le théâtre de boulevard, c'est la recherche de la sidération. Au-delà de la sidération, il y a aussi des interrogations sur les confins de l'humanité, sur ce qu'est la bestialité. Et il y a tout un travail qui est fait sur un univers onirique qui peut réunir les Français depuis des décennies, depuis des siècles même. Moi, je suis étonné quand on voit la monstration de Cordiforme, de voir les liens que l'on peut faire, par exemple, avec les dessins d'Ambroise Paré, qui datent du XVIe siècle, dans des monstres et des prodiges, et qui met, par exemple, en avant un agneau à trois têtes que vous allez retrouver dans les curiosités montrées au XIXe siècle. De la même façon, dans le Marseille du Premier Empire, on présente, non sans surenchère, je vous lis un extrait de l'affiche, hein, un chien du Mogol portant 6 pattes, 4 cuisses, 2 ventres, 2 estomacs, double mâle. Une brebis des Pyrénées portant dans le milieu du ventre une 3e cuisse qui représente la tête d'un petit cochon de lait. Etc. Donc, voyez le lien que l'on peut faire sur ce qui étonne le scientifique et sur ce qui va étonner de la même manière le badaud. On connaît aussi la représentation, c'est une gravure du XVIIIe siècle, d'un homme velu, mi-singe, mi-lion, hein, qui a été peint par Caillaux Vassou et qu'on exhibe à la foire Saint-Laurent de Paris. Eh bien, au début du XIXe siècle, on est très friand à Marseille du spectacle d'un petit enfant de 3 ans, extrêmement velu, déjà barbu. Les médecins de la ville ont autorisé à ce que son corps soit montré au public. Donc, vous voyez, il y a des curiosités qui demeurent sur le temps long.
Céline.
Et est-ce qu'on peut se dire aussi que finalement ces spectacles de curiosité interrogent la norme ? Parce que ce qui est montré, c'est ce qui est normal, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et est-ce qu'au long donc de ce 19e siècle, qui me paraît quand même être le siècle où les curiosités se sont beaucoup développées, est-ce qu'on a pu voir une évolution dans cette norme qui en dit long aussi peut-être sur l'imaginaire des contemporains de l'époque?
Oui, bien sûr. Il est évident que tous ces spectacles anormaux, entre guillemets, oui, questionnent effectivement cette normalité de l'homme ou de la femme blanche, hétérosexuelle, hétéronormée, alors qu'on a effectivement des individus très très différents qui sont montrés dans les baraques de foire ou dans les sideshows américains, effectivement, et qui viennent auxquels viennent se confronter finalement les spectateurs. Parce que le spectateur, la spectatrice qui accepte de venir payer pour passer sous la tente, pour glisser son œil dans l'œilleton de la lanterne magique et de voir des corps différents vient aussi confronter sa propre normalité à des choses qui sont véritablement hors normes. Et donc, il y a peut-être un peu de voyeurisme, peut-être un peu d'exotisme, sans doute un peu de xénophobie aussi qui se cache derrière certains de ces spectacles et la manière dont les spectateurs peuvent les appréhender. En tout cas, tout le corps tel qu'il évolue, tel qu'il peut apparaître, est questionné à travers ces spectacles. Philippe Bourdin évoquait à l'instant les nains, les lilliputiens, les géants, mais la question de la norme se pose aussi à l'égard des corps tatoués, des corps jumeaux. Et évidemment, tout cela interroge beaucoup le spectateur et la spectatrice.
Et on est aussi en cette fin du 19e siècle, au moment aussi où on part... enfin, il y a la colonisation derrière aussi. Donc, oui. Les corps qui sont exposés aussi, qui sont censés être différents, peut-être aussi inférieurs. Et ces spectacles de curiosité ont-ils pu, par moments aussi, promouvoir ou avoir un discours politique ?
Alors, totalement. Ce sont des
Philippe Bourdin.
Ce sont des spectacles qui, dès le Premier Empire, à travers notamment les marionnettes et les statues de cire, mettent en place des spectacles politiques, une réécriture de l'histoire, souvent favorable au régime napoléonien. On reconstitue le sacre de l'empereur, mais réécriture de l'histoire qui met aussi en communication des personnages historiques qui ne se sont jamais rencontrés, Robespierre et un brigand napolitain, par exemple. Et puis, ce sont des spectacles qui ont beaucoup servi à la reconquête catholique. Il y a vraiment un théâtre catholique qui opère à travers les figures de cire auxquelles je faisais allusion.
Mais un théâtre catholique, c'est vrai que les phénomènes anatomiques aberrants ou anormaux auxquels vous faisiez allusion pendant des siècles ont été considérés comme des signes. Quand apparaissait dans une communauté un signe, enfin un cas comme ça, ça devenait le signe, alors soit d'un événement fabuleux à venir, soit d'un péché collectif qu'il fallait expier. Quand on est à partir de la Révolution française, ça n'est plus le signe de rien. Ça n'est plus l'événement ne renvoie qu'à lui-même. Et néanmoins, malgré tout, il y a encore une dimension religieuse.
Oui, alors qui est très différente de celle que vous venez d'évoquer. Il y a des crèches vivantes et il y a également des vies de saints qui sont transcrites sur ces petites scènes théâtrales faites de personnages qui ne sont pas de chair et d'os, comme vous l'aurez compris.
Alors, je voudrais revenir sur justement cette question du colonialisme et comment est-ce qu'il a pu aussi se diffuser à travers l'exhibition d'êtres humains qui n'étaient pas nés sur le sol français, en l'occurrence.
Oui, eh bien, très, très, très clairement, dans les fêtes foraines de la fin du 19e siècle, à l'occasion des grandes expositions universelles, on sait que des bâtiments spéciaux et des baraques sont proposés aux spectateurs pour leur faire découvrir cette altérité, différence, mais aussi pour marquer finalement la supériorité du colonisateur sur les territoires qui ont été investi. Et donc, évidemment, c'est aussi une fenêtre ouverte pour ces spectateurs sur un ailleurs qu'ils ne connaissent pas, si ce n'est par des images projetées par les lanternes magiques. Et en tout cas, on sait combien, par exemple, les numéros de cirque à la fin du 19e siècle, dès lors que l'on vient exhiber des bêtes sauvages, des hyènes, des lions, on sait combien les dompteurs, les dompteuses sont costumés de manière à finalement renchérir sur cet univers colonial et que les spectateurs puissent se l'approprier dans une certaine mesure, mais souvent à travers des traits de costume assez caricaturaux, finalement.
Alors, maintenant se pose la question de la loi et des institutions qui doivent gérer pareille activité. Alors, effectivement, là, que dit le législateur, Cyril Triolaire, que dit le maire, conseil d'administration, le conseil municipal, pardon.
Alors, le législateur est très attentif à ces spectacles de curiosité, parce qu'en réalité...
Parce que ça peut aller loin, quand même.
Ça peut aller loin, parce qu'en réalité, dès 1806-1807, ces spectacles ont été délibérément placés en dehors de la sphère juridique des théâtres, pour mieux les protéger. Et donc, tout ce qu'ils peuvent faire ne doit pas contrevenir à ce que l'on propose sur les scènes des théâtres. Donc, on leur interdit, par exemple, dès les années 1810-1815, de pouvoir proposer des pantomimes, de pouvoir proposer des pièces dialoguées, parce que ça vient faire concurrence au théâtre. Donc, ils sont rejetés, finalement,
ce qu'on exige,
en dehors de cette sphère-là.
le phénomène à nu. Ils ne doivent pas jouer, ils ne doivent pas se prendre pour des acteurs.
Exactement, même s'ils prétendent être élevés au rang de théâtre. Prenons le simple cas du cirque Franconi, qui est le grand cirque qui domine la France pendant toute la première moitié du 19e siècle. À partir du milieu des années 1820, il est élevé malgré tout au rang de théâtre. En tout cas, ce sont des spectacles qui sont rejetés en dehors de la norme théâtrale, qui sont marginalisés, qui sont scrutés par les municipalités, qui ont le droit de police sur la circulation de ces spectacles-là, bien évidemment, et qui sont scrutés jusqu'à très tardivement, hein, puisqu'on parle de spectacles de curiosité dans le droit français jusqu'en 1945. Donc c'est finalement quelque chose de relativement récent.
Et aussi, je dirais que l'état de saltimbanque est aussi scruté, puisque vous expliquez qu'il y a quand même une autorisation et un certificat de bonne vie et mœurs indispensable à travers des circulaires qui datent de 1853 à 1863, si j'ai bien noté. Donc c'est une population qui est surveillée.
Tout à fait.
À travers les circulaires, mais aussi dans l'attitude des municipalités. Il est sûr qu'il y a un souci d'ordre moral et que l'on assigne des caractères très dépréciatifs à ces activités, des spectacles de curiosité. Une dépréciation qui tient non seulement au contenu des spectacles, mais au statut même du battleur, de l'artiste, quel que soit son statut. Si vous voulez, ils demeurent des étrangers, ils demeurent des migrants, et ils sont suspects, déjà à cette époque, à ce titre-là. On leur demande en permanence de prouver leur identité. Et on en a même trouvé au début du XVIIIe siècle à La Rochelle, qui devaient exciper de leur catholicisme, qui devaient reproduire un arbre généalogique, ce qui nous permet de savoir d'ailleurs qu'ils sont au fond de la balle, hein, descendants d'autres artistes de curiosité qui étaient déjà sur scène au XVIIe siècle.
Parce qu'il y a cette question du nomadisme aussi qui est suspecte.
Le nomadisme est très suspect, effectivement, et en même temps, il a une saveur indéfinissable pour une partie de cette bourgeoisie qui prétend le rejeter. Prenons un exemple, celui de la femme présumée incombustible qui donne un spectacle à Marseille. Mais cette femme incombustible, elle met le feu dans beaucoup de cœurs, dans la haute bourgeoisie marseillaise et au sein de la municipalité. Et on l'exclura à cause des ravages qu'elle a fait dans quelques couples marseillais.
Céline Duchesne.
Oui, la question que je me posais, c'est qu'est-ce qu'on pouvait voir exactement ? Un spectacle de curiosité, c'était quoi ? C'était un enchaînement de numéros ou alors c'était une personne qui arrivait, par exemple, dans une foire et qui présentait, je ne sais pas, par exemple, un ours ou alors c'était tout en même temps et ça dépendait et des époques et des lieux et des personnes.
Voilà, c'était pas tout en même temps, mais ça a été tout ça successivement.
Oui.
C'est-à-dire qu'à l'origine, c'était souvent un artiste ou une famille d'artistes qui faisait son numéro sur la place publique, dans l'auberge, parfois dans des maisons particulières, selon les spécialités des uns et des autres. Et ce que l'on voit au 19e siècle, ben finalement c'est la naissance du cirque tel qu'on le connaît, c'est-à-dire qu'il va y avoir amalgame de plusieurs numéros. Cyril citait tout à l'heure les Franconi. Typiquement, dans les spectacles des Franconi, il n'y a plus seulement les numéros équestres qui ont fait la réputation de la famille, d'abord parce qu'on introduit de nouveaux animaux, des éléphants, des cerfs, mais aussi parce qu'il y a des numéros d'acrobatie, mais aussi parce qu'il y a une théâtralisation du numéro qui finit par reproduire des grandes scènes de l'histoire nationale, vous voyez.
Et puis, si je peux compléter, il y a aussi un petit peu des différences en fait suivant les territoires, parce que si on pense par exemple aux États-Unis, dans les fameux sideshows, il y a un espace particulier qui est le 10-in-1, où là, le spectateur entre sous une tente et où il peut voir 10 numéros enchaînés les uns à la suite des autres, avec un numéro surprise à la fin qu'on appelle le ding. Mais le spectateur va pouvoir voir un nain, un géant, un combat de sabre, un objet curieux, Barnum qui va être un des spécialistes de ce type de spectacle aux États-Unis et qui va aussi, avec son cirque, y associer son grand American Museum, qui permet aussi de voir derrière des vitrines, à l'intérieur de cages, sur des tables, des armes, des animaux exotiques et aussi des lilliputiens et des géants. Lui cultive cet enchaînement des numéros. Et finalement, si on en revient à la France, la fin du 19e siècle, c'est aussi l'émergence du music-hall, et le music-hall qui procède de la création, de la continuité des cafés-concerts et des cafés chantants des années 1830-1840. Le music hall des années 1870-1880 s'organise autour de chants, aux Folies Bergères, au Moulin Rouge, à l'Alcazar d'été, mais aussi de la présentation d'un certain nombre de numéros, de danses un petit peu osées ou dénudées, de montreurs de sabres, d'hommes qui peignent avec leurs pieds. N'oublions pas le célèbre pétomane du Moulin Rouge, par exemple. Tout à fait, oui. Et donc les numéros s'enchaînaient aussi à ce moment-là.
Et avec un bonimenteur. Oui. Il y a quand même ce personnage clé. Pardon, je vous interromps, François, on est tellement passionnés.
Non, c'est vrai que la question... j'avais prévu d'évoquer cela, la dimension orale, c'est-à-dire le texte, et puis ce qui est essentiel, c'est le boniment.
Qui ne peut que nous toucher,
nous autres bonimenteurs professionnels. Ça, c'est important aussi, la dimension, la jactance. Là.
Oui, effectivement, le bonimenteur a un rôle considérable pour annoncer, raconter, créer un univers sonore, oral, autour de ces spectacles-là qu'on va découvrir sous la tente ou sur la scène du théâtre parfois. C'est Agnès Curel qui en parle très bien dans l'ouvrage publié aux presses universitaires Blaise Pascal.
Remarquable.
Voilà. Et qui nous ouvre cette fenêtre sur cette histoire orale du spectacle aussi à travers ces boniments.
Mais l'histoire pouvait-elle être écrite lorsqu'elle s'adresse à une population qui est en grande partie analphabète ou qui n'a pas l'habitude de la lecture quotidienne? Donc cette oralité est très importante, mais je dirais que c'est aussi un appel par l'image qui est fait auprès des spectateurs, parce que les affiches ont une importance considérable et de plus en plus grande, même quand on s'enfonce dans le 19e siècle. Si vous voulez, au 18e siècle, elles demeurent très écrites parce qu'elles sont faites pour être lues publiquement. Et on décrit des numéros totalement invraisemblables. Hein. Au 19e siècle, c'est davantage les couleurs de l'affiche, la représentation du danger, du drame potentiel.
Déjà le cinéma, quoi.
Oui, c'est une anticipation sur le cinéma, et l'anticipation sur le cinéma, elle est aussi sensible dans certaines formes de spectacles que sont les lanternes magiques.
Voilà, à lire d'urgence, quand le cirque a mauvais genre, quand la scène a mauvais genre, les spectacles de curiosité en Europe, de la Révolution française à la fin du 19e siècle, un passionnant collectif dirigé par Philippe Bourdin et Cyril Triolaire, c'est aux presses universitaires Blaise Pascal. L'heure est venue maintenant de l'almanach de l'étrange.
Rien de tel à l'approche de Mardi Gras puis de la mi-carême de consacrer une page de notre almanach de l'étrange au carnaval. Et un livre sorti aux éditions Cambourakis nous en donne un excellent prétexte. Intitulé « Carnaval toi », il peut se lire comme un manuel de folle conduite pour qui veut s'adonner à carnaval tout en le réinventant. Car il a ceci de particulier, ce livre, qu'il a été écrit par les Reines Pédoques, un collectif créé en 2017 composé de carnavalières au grand pied. Détail qui peut paraître anecdotique, mais qui va vite faire sens à la lecture de ce manuel, écrit dans une langue truculente et joyeuse, ne lésinant pas avec l'excès, le potache, le grotesque et la dérision propres au carnaval. Il était donc important de préciser que ces reines ne faisaient pas du 36 fillettes. Alors ce livre est né d'une longue expérience de terrain, car à force de fréquenter les carnavals, les reines pétauques ont constaté qu'il n'était pas toujours simple d'y être femme. Sous couvert de tradition, les carnavaliers peuvent se laisser aller à des débordements sexistes, ultra-virilistes, quand les femmes ne sont pas tout simplement exclues de certains défilés, comme aujourd'hui encore à Binche, en Belgique, lors du défilé des Gilles.
Elles veulent défiler les jours gras à Binche, aux côtés des autres sociétés. Une demande d'un groupe d'une vingtaine de femmes qui a été rejetée par 75% des membres de l'association de défense du folklore.
Ce qu'il faut qu'elles comprennent, c'est qu'on ne change pas des traditions centenaires en quelques coups de cuillère à peau. Et donc, voilà, je leur ai dit qu'il fallait un peu laisser du temps au temps.
Et oui, belle fin de non-recevoir de Didier Rombaud, président de l'association de défense du folklore binchois, le 6 février dernier. Alors on lui conseille vivement de lire Carnaval Toi, qui propose une autre manière de vivre le carnaval dans la joie et l'excès, mais pour tous les sexes, genres ou couleurs de peau, sans pour autant dénaturer le carnaval et le transformer en un événement consensuel et insipide. Car avec Carnaval Toi, sous-titré Petit guide d'émancipation féministe carnavalesque, les reines pétales cherche à voir comment rendre inclusif un répertoire qui s'est longtemps construit sur une distribution genrée des rôles. Dans leur livre, on y trouve non seulement des descriptions drôlatiques de différents carnavals, avec leurs rituels, leur vocabulaire spécifique, que ce soit les trouilles de nouilles à Binche, le tamarou à Pézenas, la danse du souffle à cul, des exemples de collectifs qui bousculent les règles, comme la consoeurie des connasses en Belgique, qui a voulu introduire dans le cortège officiel des Gilles des gilettes subversives. Les reines pédoques vous encourageront à prendre possession de l'espace public, à utiliser, je cite, la souillure, jet de farine, œufs et légumes pourris, pisse, merde, sang menstruel, peinture, cendre, lait, à mêler aux pratiques carnavalesques d'autres traditions ou revendications, à sacraliser tout ce qui touche au sexe féminin et au plaisir féminin, à créer un costume qui joue avec le grotesque, qui permet d'exulter, de transgresser les règles et les tabous, finalement, à retrouver l'essence même du carnaval. Carnaval, la fête et le détournement pour toutes et tous, sans laisser personne en chemin. Carnaval Toi, c'est donc un petit guide d'émancipation féministe carnavalesque des reines pédoques et sorti aux éditions Cambourakis.
Merci Céline, et carnavalée dans tous les sens, et tous ensemble, et toutes ensemble, bien évidemment. Prochaine parution, messieurs Bourdin et Triolaire, rassurez-nous, ça va continuer la fête, là.
Après nous, on les vous
spectacles
attend, hein.
De curiosité, qu'est-ce qu'on attend, là, Blaise Pascal?
Le tome 2.
Histoire de la fête foraine au 19e siècle, par exemple, dans lesquelles on pourrait retrouver ces artistes.
Et pour moi, une histoire de l'Opéra de Paris sous le Directoire.
Ah oui, et alors justement l'Opéra de Paris, dites-nous un peu là.
C'est une entreprise en grande fragilité économique dont on hésite à dire qu'elle est ou non un service public. Donc l'État s'en empare une année pour la laisser au privé l'année suivante et vice-versa.
Très bien, bon, on sera attentif à cette nouvelle parution. Merci messieurs, donc merci Philippe Bourdin, merci Cyril Triolaire d'avoir été ce soir les invités de Mauvais Genre pour un collectif que nous recommandons, ma chère Céline,
charmant,
ardemment,
comme on dit.
Les spectacles de curiosité en Europe de la Révolution française à la fin du 19e siècle, c'est aux éditions donc Presse Universitaire Blaise Pascal. Et puis dépêchez-vous d'aller à Marseille, ou si vous êtes à Marseille, dépêchez-vous d'aller au Mucem jusqu'au 12 mai pour voir la formidable exposition de Macha Maki et Vincent Giovannoni. En piste, toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Grégory Wallon, Claire Poinsignon, Céline Duchesnay, Claire Martin Dugard et François Angelier vous remercient d'avoir écouté Mauvais Genre. On se retrouve la semaine prochaine avec Benjamin Dierstein pour Bleu, Blanc, Rouge et Flammarion.